J'avais pourtant une bonne communication qui allait me permettre d'articuler ma réflexion en cours sur le punk rock au thème cher au radical de l'imaginaire et de la communauté. En gros, j'allais partir de l'exemple du groupe Minor Threat qui a sévi à Washington au début des années 80 pour développer un propos sur la scène hardcore américaine de l'époque. Pourquoi la scène hardcore? Parce que, après m'être souvent penché sur la scène punk britannique et française, il me paraissait intéressant d'ouvrir ma réflexion à sa contrepartie américaine. Celle-ci se distingue d'ailleurs par son ancrage dans la classe moyenne, alors que le punk britannique originel est généralement issu de la classe ouvrière, et donc l'apanage des vrais exclus du système, le hardcore américain est produit par des gamins qui luttent avant tout contre l'ennui inspiré par leur quartier résidentiel. La communauté y est donc fondée sur des valeurs autres que le ressentiment politique. Et pourquoi Minor Threat? Parce que, des trois ou quatre groupes généralement considérés comme fondateurs du genre, c'est celui dont le propos se prête le mieux à une réflexion de ce type. Les Dead Kennedys sont plus âgés, plus ironiques, plus engagés dans une forme d'action politique directe. Ils rappellent de ce fait à bien des égards la dimension constructive du punk anglais. Bad Brains sont infusés de spiritualité rasta, ce qui complique la notion de communauté proposée. Black Flag aurait pu être un excellent exemple, car, de par leur tournée incessante et leur défrichage du territoire, étant souvent le premier groupe de ce type à jouer dans des petites villes reculées, ils ont contribué à inspirer d'innombrables musiciens en devenir et à fédérer un underground qui risquait de demeurer sinon éparse. La congrégation à l'échelle nationale qui en résulte demeure toutefois quelque peu abstraite, désincarnée, de l'ordre de ce que Benedict Anderson nomme une communauté imaginée. Reste donc Minor Threat, associé de près à la ville de Washington, D.C., qui s'adresse dès lors, du moins à l'origine, au moment où ils en disent qu'ils se donnent en concert, à une communauté restreinte, clairement circonscrite, où tout le monde se connaît et où chaque prestation dégage l'impression d'un rituel pour initier. C'est, pour moi, l'essence même du hardcore, et de manière plus générale, c'est exactement la raison pour laquelle Minor Threat fait figure de fondateur du genre. À partir d'un tel exemple appliqué, les étapes de la démonstration se seraient enchaînées en toute logique. J'aurais commencé par présenter brièvement le groupe, qui a sévi de 80 à 85, le plus souvent sous forme de quatuor, mais aussi momentanément comme quintette, avec l'ajout d'une seconde guitare. J'aurais recensé sa discographie. Deux maxi 45 tours, Minor Threat et In My Eyes, datant tous deux de 81 et regroupés dès 84 sous forme de disque unique. Un album, Out of Step, paru en 83, et un ultime 45 tours, Solid Days, sorti en 85. Et, surtout, j'aurais souligné la spécificité de sa musique, mais aussi du hardcore américain en général, qui rappelle à bien des égards, par son chant mi-hurlé, mi-scandé et ses guitares sursaturées, le punk anglais, le tout à un tempo nettement plus rapide cependant, la majorité des chansons de Minor Threat font moins de 2 minutes, ce qui élimine d'emblée les scores hip-hop qui pouvaient encore nimber la production britannique. On pense à The Clash, par exemple. Il s'agit donc, et la première séquence couplet-refrain du morceau Little Friend en est un excellent exemple, d'un punk radicalisé, encore plus extrême, du moins par le son. À ceci se sera ajoutée une brève situation sociologique des membres du groupe, issus, comme je l'ai dit, de la classe moyenne américaine. Alors que la majorité des musiciens punk britanniques de la première vague proviennent des classes populaires et paraissent donc animés d'un dégoût quasi instinctif du pouvoir, de la norme et de la bienséance, les acteurs de la scène hardcore de Washington, D.C. sont, capital oblige, presque tous des enfants de hauts fonctionnaires ou de journalistes. À titre d'exemple, le père de Ian MacKay, chanteur de Minor Threat, était titulaire d'un doctorat en théologie et directeur de la section religion du Washington Post. On est donc loin de l'enfance dickensienne d'un Sid Vicious. Cette situation sociale privilégiée, qui ne mène à aucune revendication matérielle immédiate, mais qui ne débouche pas non plus, comme ce sera le cas chez les Dead Kennedys, notamment sur une critique politique informée, fait de la musique de Minor Threat une agression qui ne semble pas toujours avoir de cible précise, du moins à premier abord. L'intensité sonore dégagée par le groupe, et par bien d'autres de sa catégorie, paraît dès lors moins une déclaration de guerre que la constitution d'une enveloppe protectrice, l'érection d'un rempart symbolique contre le monde extérieur qui en vient à fédérer implicitement ceux qui l'enclos. On n'est pas loin ici, comme le disait d'ailleurs Hubert tout à l'heure, de ce que disent Deleuze et Guattari au sujet de la ritournelle et des territoires existentiels que celle-ci balise. C'est précisément sur ce type de repli stratégique et sur la communauté qui en résulte qu'aurait porté ma communication. J'aurais, esprit de communauté oblige, commencé par parler des manifestations concrètes de celle-ci. Il aurait tout d'abord été question de sémiosis visuelle, ou pour le dire plus prosaïquement, de look. Les acteurs du hardcore américain se distinguent en effet paradoxalement par l'apparence la plus banale possible. Jeans, t-shirt, basket. Ceci est à la fois une réaction à et une prolongation de l'ethos punk anglais. En effet, des groupes comme les Sex Pistols et les Clash prétendaient, à l'opposé de stars intouchables comme Pink Floyd, les Stones ou Zeppelin, être au même niveau que leurs fans, tout en s'en distinguant par des accoutrements et coiffures particulièrement recherchés. Le hardcore reprend cette idée d'une réelle communauté entre groupe et public, mais choisit de souligner celle-ci par une apparence ordinaire. Ce ne sont plus les fans qui tentent d'émuler le look du groupe, mais bien le groupe qui se confond désormais avec ses fans. Un aperçu des diverses photos de Minor Threat montre bien l'évolution à cet égard. Le disque éponyme, constitué des deux premiers maxi 45 tours, représente le chanteur, en un moment d'abattement, vêtu d'une veste et d'un pantalon sombre et chaussé de bottes de combat. Tant la posture que l'apparence rappellent le punk, ou plutôt le skinhead anglais. Par contre, le 45 tours final, Salad Days, met en scène le groupe au complet, en jeans, chemise, sweatshirt et basket, soit le kit de l'adolescent ordinaire. Le chanteur se distingue toutefois par ses shorts et ses espadrilles vannes, qui évoquent la culture du skateboard, alors en train de se constituer. Une deuxième étape de la démonstration aurait consisté à lier cette attitude résolument anti-rockstar aux valeurs défendues par la communauté d'Ouellet-Mann. La scène de Washington est en effet connue comme étant le berceau du mouvement « straight edge », qui dénonce à la fois les abus d'alcool et de drogue, ainsi que ceux d'une sexualité effrénée. Certains critiques ont cru voir là des vestiges du puritanisme américain de la côte Est, ce qui n'est pas forcément faux, mais une telle attitude est avant tout à comprendre comme une réaction viscérale à la figure de la rockstar décadente, égarée dans un paradis artificiel de dope et de groupies, qui n'a plus rien à dire ou à offrir à son public. Il aura ensuite convenu de creuser la part d'excès qui se dissimule sous cette apparente normalité, et surtout la part de rituels fédérateurs à sous-tendre de telles pratiques. Alors que les punks anglais paraient de look impossible et défonçaient la drogue bon marché et se contentaient de pogoter, soit sauter à la verticale, la scène hardcore américaine voit l'émergence du slam dance qui consiste à foncer violemment dans les autres membres du public et du stage dive qui consiste à plonger sur ceux-ci du haut de la scène. En découle une ambiance de concert bien plus violente, même si cette violence est tempérée, fait partie d'une sorte de rite de passage, que ce qui avait lieu jusqu'alors. Il aurait enfin été pertinent de rappeler que cette violence s'exerçait parfois contre le monde extérieur, généralement de manière défensive contre d'autres bandes de jeunes, d'allégeances différentes, rock ou disco par exemple, qui s'en seraient pris à des membres du clan. On trouve trace de ces bagarres dans les témoignages de l'époque, ainsi que dans certaines paroles de chansons. Aurait ainsi émergé le portrait d'une communauté paradoxale, sans ennemis déclarés autres que ceux qui s'en prennent à elle ponctuellement, qui prend radicalement ses distances avec la figure décadente de la rockstar, tout en exacerbant la radicalité du punk rock. Il aura ensuite convenu, en un second temps, de trouver trace de tout ceci dans les disques mêmes de Minor Threat. Le groupe, je le rappelle, est loin des revendications de classe à la The Clash ou des dénonciations politiques à la Dead Kennedys. Il aurait été ainsi pertinent de montrer comment, en une dynamique qui ne va pas s'en rappeler la fin des grands récits constatés à l'époque et l'émergence des micro-récits communautaires à en avoir résulté, Minor Threat se soucie avant tout de son entourage immédiat et de l'établissement d'une ligne de conduite appropriée pour les circonstances. De même, il aurait été stratégique de suggérer que la démarche de la formation reflète ainsi le glissement général du politique vers l'éthique observé ces mêmes années. Une telle démonstration aurait en principe été aisée à faire à partir des paroles du groupe. Déjà, les textes d'Ian MacKay ont donné lieu à un certain nombre de slogans, dont beaucoup sont encore cités dans certains milieux aujourd'hui. Il n'est qu'à penser à l'expression « straight edge », qui renvoie à l'avantage, au « edge », conféré par le fait de ne pas dilapider son énergie et ses pensées dans les psychotropes ou la sexualité, depuis devenu le nom d'un mouvement international. De même, le constat final de « In My Eyes »,« You tell me that I make no difference, at least I'm fucking trying, what the fuck have you done », qui renvoie à l'éthos volontariste du mouvement et de la formation, se retrouve désormais en exergue de la majorité des publications consacrées au sujet. Mais surtout, l'analyse aurait misé sur le fait que les textes de Minor Threat se distinguent par un usage immodéré de pronoms personnels. Même pour l'auditeur distrait, comme j'avais pu l'être jusque-là, les chansons du groupe ont ceci de particulier qu'elles s'énoncent presque toutes au « tu », et donc s'adressent à un destinataire ciblé, ou, à l'inverse, au « nous » et servent donc à fédérer un groupe. Il aurait dès lors suffi de discerner la communauté qui se profile ainsi grammaticalement. À ce développement d'ordre textuel auraient pu s'ajouter quelques remarques d'ordre phénoménologique sur la capacité fédératrice de la musique, sur son pouvoir rassembleur et communicationnel. J'aurais même pu faire jouer davantage d'extraits de morceaux, histoire de reprendre ça et là mon souffle. Tout ceci aurait en principe donné une communication honnête, correcte, sans être grandiose. Pourquoi alors ne pas tout simplement être allé de l'avant avec ce projet, plutôt que de faire l'intéressant en l'énonçant au conditionnel? Réponse, parce que tout ceci a été conçu avec une certaine arrogance ou inconscience, au choix, avant d'aller écouter attentivement l'œuvre de Minor Threat, et donc avant de constater, à ma grande stupéfaction, que les textes du groupe disent plus ou moins le contraire de tout ce que j'ai pu avancer jusqu'ici. En effet, alors que Minor Threat est généralement associé à une forme d'imaginaire de la communauté, ses paroles ne cessent de se heurter à ce qu'on pourrait nommer, dans le sillage de Blanchot, Nancy, etc., la communauté impossible. Se profile alors une autre communication potentielle, pertinente en soi et surtout pour qui s'intéresse au groupe, mais peut-être hors sujet dans un colloque comme celui-ci. À quoi bon, en effet, recenser l'impossibilité de la communauté telle que dénoncée par un groupe que personne ici ou presque ne connaît? Cette communication, que j'évoque néanmoins brièvement, se serait construite comme suit. Tout d'abord, j'aurais insisté sur le fait, remarqué un peu tardivement, que l'usage des pronoms personnels dans les disques de Minor Threat ne se fait pas de manière aléatoire, mais obéit au contraire à une logique bien précise. Les deux premiers disques s'énoncent quasi exclusivement au « tu », alors que les parutions subséquentes recourent à l'inverse massivement au « nous ». Qui plus est, le recours au « tu » sert à faire le point ou à régler des comptes de manière individuelle, tour à tour avec des membres de la communauté, qui n'est pourtant jamais évoqué comme un tout, ou avec des individus extérieurs à celle-ci. Or, lorsque survient dans les enregistrements plus tardifs une ouverture au « nous », celui-ci ne vient pas, comme on pourrait s'y attendre, entériner la communauté nouvellement fondée, mais bien lamenter, du point de vue du jeu, l'éclatement de celle-ci. En d'autres termes, le « nous » ne s'énonce que par après, lorsqu'il n'a plus raison d'être. À titre d'exemple, parmi bien d'autres, les tout premiers morceaux du disque initial s'en prennent à divers camarades, accusés tour à tour de s'égarer dans les faux-semblants, « What happened to you? You're not the same », de ramener tout à eux-mêmes, « I don't want to hear it, all you do is talk about you », ou de s'abîmer dans les paradis artificiels, « I'm a person just like you, but I've got better things to do ». À l'inverse, les titres de l'album « Out of Step » ressassent avec amertume les erreurs collectives passées. « I thought we had the same ideas, but you proved me wrong », So what now do we shake hands and go our separate ways? Ou, de manière encore plus explicite, La pochette de ce dernier disque représente d'ailleurs, sous forme de dessin, un mouton noir s'échappant d'un troupeau blanc, ce qui souligne une nécessaire part d'individualité. Ce constat initial, qui aurait certes nécessité une démonstration plus étendue, aurait pu s'étayer de quelques développements plus pointus. Par exemple, il est frappant de constater que la formation fait deux fois référence à elle-même au fil de ses chansons. La première fois, dans le morceau programmatique Minor Threat, le groupe se présente, dans l'unique occurrence du « nous » du Maxi 45 Tours initial, comme une force volontairement marginale qui entend profiter pleinement de ce que le présent peut lui offrir. « Make do with what you have, take what you can get, pay no mind to us, we're just a minor threat. » Dans la seconde, « Cashing in », située cette fois sur Out of Step, l'album de la désillusion, le groupe prétend, en une ironie cynique qui peut rappeler celle des Sex Pistols, n'être motivé que par l'argent. « We don't care, we don't pose, we'll steal your money, we'll steal your show. » Une telle attitude, si second degré soit-elle, repose sur une distance qui paraît désormais inconciliable, car contrairement à l'exemple précédent, le « nous » ici utilisé renvoie exclusivement aux musiciens, donc à un écart entre le groupe et son public. De même, il aurait été révélateur de développer au sujet de l'évolution du son du groupe, qui passe d'une à deux guitares, et de celle des compositions qui s'enrichissent de rythmes et motifs hétérogènes. Cette progressive maîtrise de la musique, qui en principe est une chose positive, revêt un aspect singulier dans la perspective qui m'intéresse ici, dans la mesure où elle témoigne d'une apparente dispersion. Alors que les premiers morceaux ont une guitare et une basse qui jouent presque à l'unisson, avec une rythmique quasi constante, le tout mixé de manière très centrale, de manière à offrir le maximum de force de frappe, les enregistrements subséquents jouent davantage sur la stéréo, occupent davantage d'espace sonore, mais paraissent de ce fait plus dispersés. Les guitares évoluent chacune de leur côté, le centre paraît déserté. Dans un même ordre d'idées, alors que les morceaux initiaux très primaires développent une unique séquence couplet-refrain, avec parfois un rapide pont musical, les titres de Out of Step paraissent parfois cumuler plusieurs chansons en une, recourant fréquemment au procédé de la coda ou outro, où le morceau paraît céder le pas à un autre. Là encore, à la lumière de ce que disent par ailleurs les paroles, une impression d'éclatement et de dissolution s'impose. Enfin, et c'est là probablement la clé de tout le reste, la reprise du morceau Out of Step, du maxi 45 tours In My Eyes à l'album du même nom, suggère un grave problème de compréhension entre le groupe et son public. Ce morceau traite justement de mentalité straight edge, revendication à l'origine personnelle de Ian MacKaye, depuis devenu un mouvement autonome, souvent désavoué par son inspirateur. Dans la version initiale de la chanson, le code de vie personnel du chanteur est énoncé, pour des raisons de rythmique et de scansion, en omettant le pronom personnel. Ce qui en principe devrait se lire « I don't smoke, I don't drink, I don't fuck » s'entend dans les faits « don't smoke, don't drink, don't fuck » et glisse ainsi de l'indicatif à l'impératif. Le morceau a dès lors apparemment été pris comme une injonction par certains, et ce, paradoxalement, en dépit de la conclusion « at least I can fucking think » énoncée tout juste après. Il est dès lors révélateur que, dans sa reprise du même morceau, non seulement Ian MacKaye insiste-t-il très clairement sur les « I » auparavant passés sous silence, mais il profite d'un interlude musical pour préciser à son auditoire, sous forme de spoken word, que « There's no set of rules, I'm not telling you what to do ». Ce dernier exemple demeure anecdotique, mais il est très clairement un symptôme du malaise plus vaste qui traverse la discographie de Minor Threat. Le groupe souhaitait manifestement susciter un débat, souvent de manière un peu maladroite sous forme de confrontation, mais a vu ses affirmations transformées en slogans, si ce n'est en dogmes, alors qu'il se voulait simple éveilleur de conscience, idéalement au même niveau que ses interlocuteurs, avec lesquels il pensait alors former communauté, il semble avoir été promu malgré lui au rang de ce que la sociologie nomme un leader charismatique. Le deuil que le groupe porte de la communauté est d'alors moins celui de son éclatement que de son caractère figé, ce qui explique peut-être à la fois l'image du mouton noir qui s'échappe du troupeau et la récurrence du procédé de la coda dans ses ultimes morceaux, signe, je le rappelle, d'un apparent nouveau départ. Bref, j'aurais pu également offrir une communication correcte sur le thème de la communauté impossible. J'avoue avoir procédé très rapidement dans ma présentation de cette deuxième réflexion hypothétique, mais comme personne ici ou presque ne connaît le groupe en question, et comme je n'avais pas le temps de faire passer davantage d'extraits musicaux pour étayer mes dires, mieux valait m'en tenir à des principes d'ordre général. On aboutit donc au constat paradoxal que j'aurais pu présenter deux communications contradictoires sur Minor Threat, l'une sur la fondation de la communauté, l'autre sur son impossibilité, et que les deux auraient été également pertinents. Ceci s'explique par le fait que la première repose, comme le suggère l'aveu que j'ai pu la concevoir initialement sans même avoir réécouté les disques, sur l'image généralement retenue du groupe et depuis entérinée par moult livres et films documentaires, alors que la seconde découle d'une prise en compte attentive de son œuvre. Le constat, découlant de la fréquentation de diverses tribunes Internet spécialisées, comme quoi le chanteur Ian MacKay passe aujourd'hui pour un mauvais coucheur dans la mesure où il s'obstine à vouloir rectifier certains faits que l'histoire populaire préfère ignorer, semble par ailleurs confirmer ceci. La question se pose donc, et je conclurai là-dessus, en quoi le fait qu'un groupe manifestement aussi individualiste et anti-grégaire que Minor Threat ait pu, dans l'histoire du hardcore américain, être considéré comme fondateur de communauté, et ce à l'encontre même de ce qu'énonce très clairement ses paroles, en quoi ce fait donc peut-il nous apprendre quelque chose sur l'univers du rock en général? Une première hypothèse à ce sujet serait, je ne lâche décidément pas le conditionnel, que comme l'a déjà suggéré le succès mondial des Beatles et des Stones dans les années 60, alors qu'une bonne part du public ne maîtrisait pas l'anglais, le rock vaut davantage comme pulsion que comme discours. La guitare et la batterie auraient un pouvoir fédérateur bien plus fort que celui des mots, en hypothèse qui résonne avec ce que Hubert nous a dit tout à l'heure. Les paroles ne sont d'ailleurs, dans le cas d'un groupe comme Minor Threat, pas toujours compréhensibles pour l'auditeur distrait. La vitesse et l'intensité jouent ici souvent au détriment du sens. Ce pouvoir fédérateur des sons serait par ailleurs renforcé par celui de l'apparence et de l'attitude. Avoir l'air de Mick Jagger ou d'Ian MacKay, émuler la défiance de l'un ou de l'autre, serait en soi significatif, se passerait de commentaires verbaux. Une deuxième hypothèse, qui ne contredit pas la première, serait que l'effet de communauté se joue bien davantage au niveau du public qu'à celui du groupe. La communauté sera alors de goût et d'affinité. La musique et éventuellement les textes ne constitueraient pas son socle, mais le vecteur par lequel elle se soude et cristallise. Et donc, ça nous renvoie à ce que Chantal racontait. Une troisième hypothèse, plus cynique, serait qu'on a ici affaire au paradoxe récurrent des sous- et contre-cultures occidentales modernes, qui prétendaient valoriser l'individu au moyen de comportements aux figales grégaires. Le fait que Minor Threat soit issu des classes moyennes éduquées, un milieu qui valorise justement la créativité et l'originalité, n'a pu que rendre le groupe plus conscient de cette contradiction. Tant qu'à faire des chantantes, on pourrait dire à Marie-Hélène. Enfin, une ultime hypothèse, carrément déprimante cette fois, serait qu'une part du public rock serait en quête, pour citer la Boétie, de servitude volontaire, c'est-à-dire d'identité culturelle prête à porter dont l'adoption permet de se fondre sans effort dans un ensemble plus vaste. Quoi qu'il en soit, et ce sera là ma conclusion provisoire, la communauté rock aurait, comme l'ont suggéré mes communications potentielles sur Minor Threat et la scène hardcore américaine, ceci de paradoxal. Elle s'agrège et se perpétue, parfois au détriment des œuvres qui contribuent pourtant à la fonder et à l'alimenter. L'interprétation y cède alors le pas à l'appropriation. L'appréciation repose moins sur des critères d'ordre esthétique que sur la valeur d'usage, le potentiel fédérateur.